vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Le REM, le réseau express métropolitain, a ouvert son premier tronçon cet été entre Brossard et Montréal. Ce métro léger automatisé, avec ses futures 26 stations, apporte un vent de changement dans la mobilité de la métropole, tout comme le REV, le réseau express vélo, qui d'ici 2027 permettra de se déplacer à bicyclette sur près de 200 km. À l'heure des changements climatiques, le choix des moyens de transport importe. Nous allons à Je vote pour la science parler de leurs impacts sur nos villes, notre santé, notre environnement. Les options électriques comme le rail s'avèrent plus efficaces en termes d'énergie, d'émissions et même d'attractivité pour délaisser l'auto. Donc pour mieux préparer tout cela, il faut modéliser les déplacements, c'est-à-dire mieux comprendre comment les gens se déplacent lors de leurs activités. Le télétravail et le vieillissement de la population nous obligent aujourd'hui aussi à revoir notre mobilité urbaine. Et il y a aussi une vieille nouvelle idée, le tramway. Donc on en reparle à Québec, mais aussi dans l'Est à Montréal. Est-ce que cela présenterait certains avantages en 2023? Alors, comment changer nos façons de faire pour que le transport soit au plus proche des besoins des gens? Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas. L'arrivée du REM vient bonifier l'offre de transport collectif de la grande métropole. Train, bus, métro ou vélo, l'important c'est le choix de transport et l'adéquation entre comment les gens souhaitent se transporter pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Pour parler du futur de la mobilité urbaine et des offres de transport en ville, je suis en compagnie de Wen Wegood, qui est professeur titulaire de transport à Polytechnique Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste des comportements liés au transport au département des génies civils, géologiques et des mines, c'est bien ça?
Oui, exact.
Merci d'être là, bonjour. Je suis en compagnie de Daniel Chartier, qui est vice-président du collectif en environnement Mercier Est et responsable du dossier transport collectif. Ça tombe bien, bonjour.
Bonjour.
Et je suis aussi en compagnie de François Toméo, qui est directeur de modélisation, organisation et développement des réseaux à l'Autorité régionale de transport métropolitain, qu'on connaît sous ARTM. Bonjour.
Bonjour.
Ça, c'est l'organisme responsable de planifier, d'organiser, de promouvoir des services de transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. Donc, prendre le train, le bus, le métro, peut-être aussi le tramway, dont certains désirent le retour à Montréal comme à Québec, permettrait de laisser plus souvent la voiture au garage, ce qui est important en raison des changements climatiques, mais aussi pour minimiser certains aspects, certains impacts sur notre santé. En fait, l'important, c'est d'avoir le choix, de pouvoir le faire en toute sécurité, selon nos désirs de déplacement. Il faut toutefois construire aussi le futur de la mobilité urbaine, une question de modélisation du transport et de choix adaptés pour la population locale, mais aussi de perception des offres de transport disponibles. C'est le REM qui nous emporte aujourd'hui, un premier tronçon réalisé entre Brossard et Montréal. J'aimerais pour commencer savoir un petit peu ce que ce mode de transport apporte à la population de la région métropolitaine. Peut-être Monsieur Toméo, pour commencer.
Ben, c'est sûr que le REM donne une alternative rapide qui devrait permettre un bon transfert de gens de la voiture vers le transport collectif. Donc, c'est un mode rapide qui est très orienté vers le centre-ville où on a beaucoup de déplacements. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont en bénéficier en termes de gain de temps. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un bon transfert de personnes qui vont décider de prendre le REM plutôt que la voiture pour se déplacer.
Oui, c'est donc un plus. Peut-être, M. Wegood, vous qui faites beaucoup de recherches, comment le transport interagit avec nos vies, là, il y a la perception que la voiture est souvent le transport le plus efficace, mais est-ce que c'est tout à fait vrai? Et qu'est-ce que apporte le REM?
Oui, donc le mot efficace, il faut toujours définir ce qu'on veut dire, parce que avec le mot efficace, on peut parler de les impacts environnementaux, l'impact d'espace. Donc, dans une perspective d'utilisation d'espace, c'est comme juste pour transporter une personne à une place ou à une autre, le transport par elle, comme le REM, et c'est comme le plus efficace. C'est plus efficace que juste marcher. Donc, ça, c'est un point très important dans nos milieux urbains, de savoir que avec un espace limité, il faut utiliser le mode le plus efficace d'espace qui est le transport en commun. Puis un deuxième, c'est avec les crises climatiques, il faut aussi penser à ça. Et encore, les rails, c'est un des plus efficaces possibles. Même en comparaison avec un vélo, le rail, avec le nombre de personnes qui peut déplacer passagers par kilomètre, oui. C'est un des plus efficaces. Dans ce sens, ça se bat sur plusieurs enjeux de notre société et que avec la voiture, avec les pensées qui étaient créées comme il y a 100 ans, on a une réalité très différente d'aujourd'hui et il faut utiliser les modes de transport qui répondent à nos besoins d'aujourd'hui et pas de
hier.
Ou d'hier, exact.
On va reparler de la voiture, mais je veux vous entendre, M. Chartier. Pour vous, ce n'est pas le REM le plus intéressant et il faudrait ouvrir plus d'options pour le déplacement de proximité. Expliquez-moi. Ben,
pour revenir au REM de la Rive-Sud, il y avait un consensus pour avoir un système léger sur rail qui apparenterait un tramway entre Brossard et l'île des Sœurs. Il n'y a aucun problème.
Oui.
Le problème, c'est qu'on rentre à Montréal avec le système sur pilotis qui est extrêmement bruyant et qui ne dessert pas les populations impactées. On parle d'un système qui a des... à 450 mètres, il y a un impact de bruit de 76 décibels. Là, peut-être qu'ils l'ont descendu un peu. Mais puis aux abords, il y a du 85, même du 95. Ça fait que c'est insupportable. Pour des populations qui ne sont pas desservies, là, les gens de Pointe-Saint-Charles ne reçoivent aucun service, les gens de Griffintown ne reçoivent aucun service. Beaucoup de gens... Moi, j'ai travaillé à Wellington Wellington et Robert Bourassa, et il y avait les autobus qui prenaient les gens qui se rendaient au centre-ville ou qui se rendaient à l'île des Sœurs ou ailleurs, ou sur la Rive-Sud. Et là, maintenant, ils doivent faire un grand détour. Donc, tous ces gens-là qui prenaient le transport collectif, là, maintenant, sont pénalisés de beaucoup de 15, 20 minutes, même dans une demi-heure dans certains cas. Donc, à quelque part, c'est pas vrai parce que le REM va vite qu'il est efficace pour les citoyens qui ont besoin de le prendre. Ce qui compte, c'est que de porte à porte, c'est-à-dire que de la maison au travail, au loisir, au commerce, ça soit rapide, mais aussi convivial et agréable. Il faut que ça soit accessible à tout le monde. Et le REM, il faut que tu montes, tu descends. Donc, si tu es en poussette, c'est l'ascenseur, les escaliers. Donc, il faut que ce temps-là pour monter les escaliers, descendre les escaliers, se rendre à la station du REM, il faut que ça compte. Et les vendeurs de REM nous vendent juste le temps d'une station entre les deux, les extrémités du réseau, et non les déplacements normaux. Il faut regarder les déplacements normaux des citoyens.
Oui. Ce que je comprends bien, c'est que ce n'est pas pour tout le monde. Oui, M. Touvenot?
Ben c'est plus orienté vers les déplacements longs, puis c'est peut-être moins adapté pour les déplacements courts, très urbains. C'est sûr que, comme M. Chartier disait, le temps d'embarquement, débarquement aux stations, les transferts, ça demande un peu plus de temps que si on aurait d'autres modes, par exemple.
Oui, M. Good.
Mais c'est le bon point dans le sens qu'il faut, on ne peut pas avoir un système qui est juste les systèmes parallèles parce que c'est comme, on sait que les bus, les systèmes de rail légers sur terre, ça c'est les modes à la vitesse plus bas, mais qui servent les personnes à des régions, mais à un niveau plus local et aussi, comme il a dit, que souvent il y a des problèmes, les personnes avec des problèmes de mobilité, c'est certain que c'est comme avec le métro et autres, il faut ajouter les ascenseurs pour que c'est accessible pour tout le monde. Mais on ne peut pas juste ajouter des systèmes parallèles et enlever les bus, ça c'est certain. Et je ne pense pas que ça c'est l'approche de l'RATM, mais c'est bon aussi, il faut toujours de savoir les opinions et l'expérience des utilisateurs parce qu'on veut créer un système qui fonctionne pour toute la vie. Oui. Qui est aussi, je pense, un point très important dans le sens que c'est pas seulement, c'est juste une petite partie, c'est pas la majorité de la population qui travaille. Donc, il faut avoir un système qui fonctionne pour toutes les autres personnes dans notre société qui doit aller à les pratiques de soccer ou autres, qui peut utiliser le transport en commun pour ces choses. Donc, un système
mixte
et aussi qui est
qui reste efficace.
Oui, qui reste efficace, mais c'est toujours dans le sens que il y a le point qu'il faut avoir un système qui fonctionne pour tout avant que les personnes laissent les voitures à côté.
Mm-hmm. Parce que c'est ce qu'on veut. On veut favoriser le transport en commun. Donc, on veut que les gens laissent leur voiture à la maison, idéalement.
Ou qu'il n'y en ait pas du tout.
Ou qu'ils n'en aient pas du tout
oui,
en
oui.
ville.
Non, dans une perspective, encore avec la perspective écologique, c'est impossible, même avec les voitures électriques, qu'on peut réussir à nos objectifs de diminuer les émissions globales. Ça, c'est un point très important. Donc, il faut créer un système qui fonctionne pour tout le monde avant qu'il va mettre n'utilise pas une voiture.
Mais en plus, la voiture, ce n'est pas le plus efficace en ville, je pense.
Oui, dans ce sens. C'est très, très coûteux, mais ouais, c'est certain que une voiture, c'est un outil très efficace dans un sens d'apporter quelque chose à un endroit à l'autre. C'est le problème, c'est, dans un sens, c'est une surutilisation des voitures dans notre système actuel. Ouais.
Il faut regarder l'ensemble de la ville. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'un des objectifs aussi, la transition énergétique, écologique, sociale, va forcer une transition dans les villes. Donc, il faut que nos villes soient plus résilientes, soient plus agréables à vivre, et à ce niveau-là, un mode comme le REM qui dégrade la qualité de vie dans Griffintown, Pointe-Saint-Charles et autres, c'est pas intéressant. Alors qu'un système sur tramway, on voit en Europe, il y a des centaines de villes qui se sont tournées vers le tramway et ça a tout induit un processus de requalification des villes, d'amélioration de la qualité de vie dans les villes, donc une densification douce. Alors que le REM induit une densification brutale, c'est-à-dire que là, on se met à faire des tours en hauteur et c'est du développement maximum à quelques endroits. Parce qu'on parle de 10 fois plus ou 17 fois plus de stations de tramway que pour un REM. Oui. Donc, à quelque part, ou de métro. Donc, tu réussirais à mieux consolider la trame urbaine, à offrir les destinations de loisirs, de restauration, de travail. Parce que la ville est en train de... La multipôle maintenant. On n'est plus juste orienté vers le centre-ville. Puis les origines destinations vont le démontrer. Ça s'enligne vers une consolidation des périphéries et de partout, des milieux. Donc, il faut consolider ces milieux-là, mais en accord avec les populations, là, dans le respect des populations.
Oui, c'est pour ça que je voudrais entendre François Toméo, vous qui travaillez actuellement sur justement le renouvellement du plan de modélisation de la RTM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est par rapport au sondage qui vient de démarrer, justement, par rapport au déplacement des gens? Ce qu'on veut finalement, c'est répondre au déplacement des gens, à leur désir de déplacement multiple.
Bien, par rapport au sondage, le sondage est un intrant pour le cadre de modélisation qu'on développe. Il l'était déjà dans l'ancien, parce qu'il est toujours en utilisation, mm-hmm. mais là, le modèle courant.
C'est quoi un cadre de modélisation, concrètement?
C'est quoi un cadre de modélisation? Mm-hmm. Ben, c'est parce qu'un modèle de transport, c'est pas juste un petit logiciel qui fonctionne de façon individuelle. Il y a différents modules, il y a une logique, il y a toute... Donc, c'est assez complexe, là, parce qu'on essaie de prévoir ce que les gens vont faire dans le futur. Donc, il y a différentes méthodes qui peuvent être appliquées. Donc c'est ça que j'entends par cadre de modélisation. C'est un peu la logique, puis comment ils fonctionnent pour arriver au résultat. Donc, la méthode traditionnelle, c'est de suivre des déplacements. Donc, encore une fois, on utilisait l'enquête OD. C'est sûr que c'est un intrant fondamental pour modéliser. Là, on change parce que c'était déjà quelque chose qu'on voulait faire, mais la pandémie a amplifié le besoin. Donc là, au lieu de modéliser simplement des déplacements, on veut modéliser les activités, les activités des personnes. Donc, c'est quoi qui guide le choix des gens? C'est les activités qu'ils vont effectuer dans une journée à l'intérieur des personnes, mais dans l'intérieur d'un ménage.
Donnez-nous un exemple, peut-être, d'activité.
Ben, aller au travail, par exemple, les gens qui travaillent au centre-ville, qui font tel type d'emploi, peut-être ont des opportunités de rester à la maison, de travailler à la maison.
Télétravail, finalement.
Télétravail, c'est ça. Beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand on utilise, quand on regarde juste les déplacements de l'enquête précédente, là, oui, donc l'enquête 2018, bien, on peut faire des hypothèses. On peut toujours trouver des façons d'estimer les comportements futurs, mais c'est pas simple. Donc, d'avoir un modèle qui est plus basé, qui s'appuie sur les activités, on est plus capable de faire des prévisions si les gens peuvent se permettre un choix de rester à leur domicile versus aller au travail, bien, on est capable de le caractériser. Puis éventuellement, bien, ça aboutit à des choix de mode pour se déplacer.
En fait, ça dépend aussi de qui se déplace, j'imagine, mm-hmm. parce que la population est vieillissante. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent à la maison. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite, mais qui souhaitent se déplacer aussi. Il y a des enfants aussi qui vont à l'école ou qui restent.
Exact.
C'est complexe.
Oui, mais il y a d'autres variables, de où les gens veulent se déplacer, de où qu'ils viennent, de où qu'ils s'en vont. Donc ça, c'est important aussi. Oui, il y a l'âge, il y a la composition des ménages, il y a le nombre de véhicules qui disposent. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres que j'oublie. Là. Donc, mm-hmm. Donc c'est tout ça qu'on veut considérer dans notre nouveau cadre de modélisation.
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Waygood, la famille est importante, de considérer les individus. Il faut faire attention aux enfants. Là, on a eu des bonnes nouvelles de Mme Plante par rapport à Montréal, autour des écoles. Les gens sont invités à ralentir, fortement invités à ralentir, justement pour les enfants. Mais les enfants, ils ne vont pas juste à l'école, ils se déplacent le reste du temps aussi. Comment on fait ça pour protéger les plus vulnérables, on va dire?
Oui, dans un sens très large, les enfants, c'est une groupe de la population qui est marginalisée dans la planification, parce que souvent on suppose qu'ils se déplacent avec les parents.
Oui.
Et souvent, avec la planification des années avant, on suppose que les parents déplacent en voiture et tout ça. Donc, on a créé un système qui est basé sur une supposition que les personnes déplacent en voiture. Donc, les enfants viennent d'être dépendants aux parents pour les déplacements, parce que le système est créé pour le mouvement de voiture. On est en train de changer ça.
Oui.
Et un des points les plus importants, c'est d'améliorer la sécurité routière. Donc, la ville a fait des étapes pour aller dans cette direction, diminuer la vitesse sur nos routes résidentielles à 30 km par heure, parce que à cette vitesse, la probabilité, s'il y a une collision, qu'un enfant ou une personne vont mourir, c'est très bas. Okay. Mais à 50 km par heure, c'est la plupart du temps qu'une personne va mourir. Donc, c'est basé sur la santé, sur ces aspects. Et pour les enfants, oui, c'est important de penser que l'école, c'est un point où ils se concentrent. Mais aussi, les enfants, ils veulent aller chez amis, au parc et toutes les autres places de sa vie. Mais si c'est seulement autour de l'école ou c'est en sécurité, c'est difficile pour les enfants et aussi pour les parents de penser, oui, je pense que c'est correct pour mes enfants de déplacer autonome. Donc, on a un projet maintenant où, dedans, il y a des personnes de la ville aussi qui assistent, mais pour mesurer le danger des roues pour qu'on puisse savoir, OK, ça, c'est les endroits où il faut concentrer et améliorer la sécurité
routière. En fait, la rue, adapter la rue, M. Chartier?
Nous, dans Mercier-Est, il y a beaucoup d'enfants qui restent au nord de la rue Sherbrooke qui doivent étudier au sud de la rue Sherbrooke. Il y a trois écoles et il y a des masses d'enfants qui doivent traverser la rue Sherbrooke. Alors, on peut sécuriser les abords de chaque école. La traversée de la rue Sherbrooke reste le moment de danger extrême. Il y a une des intersections, entre autres, c'est comme la deuxième plus dangereuse. Donc, à quelque part, il faut qu'il y ait des corridors alternatifs, là, plus sécuritaires, en tout cas pour les déplacements vers les écoles, vers les centres de loisirs, vers les parcs, etc., les centres communautaires. Donc, il faut qu'il y ait des systèmes dans la ville où il y a des... là, on ne parle pas de transport collectif, on parle de transport actif. Mais l'un est complémentaire de l'autre. Il faut qu'il y ait un système de transport collectif et des systèmes de transport actif pour les piétons et les cyclistes. Parce que les jeunes aussi, il faut qu'ils apprennent à agir comme cyclistes correctement. Donc, il faut des pistes cyclables bien conçues, bien sécuritaires, avec des stationnements pour vélos autour des écoles, etc. Donc, mais le diable est dans les détails, mais c'est ça qui fait qu'une ville est bien pensée.
C'est ça qui est complexe, finalement. Monsieur Toméo, c'est ça que vous devez améliorer, finalement, par rapport à 2018, votre nouveau système qui rentrera en œuvre en 2020. Votre nouveau modèle en 2024, là.
Ouais.
Il va falloir qu'il s'adapte finement à tous ces détails-là, à la volonté, justement.
Oui, mais il ne faut pas oublier que le modèle, c'est un outil parmi tant d'autres pour prendre des décisions. Donc, le modèle, principalement, ce qu'il fait, c'est qu'il prévoit des déplacements. Un autre des avantages de notre nouveau modèle, c'est qu'il va être multimodal. Donc, il va considérer pas juste les modes de transport collectif, mais les autres modes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, quand ils se déplacent, n'utilisent pas, généralement, pas juste un mode. Par exemple, si vous utilisez le transport...
Exact.
Donc, on va tenir compte des quatre principaux modes, là. Donc, la marche, le vélo, le transport collectif et la voiture. Donc mais ça reste un outil de planification, mais qui s'intègre avec d'autres facteurs qui influencent les décisions. Mais c'est sûr que le modèle est est une partie importante puisqu'elle permet de prévoir les choix des personnes.
Oui, pour orienter les choix. J'aimerais qu'on revienne un petit peu au tramway. Québec veut son tramway, mais il y a beaucoup de détracteurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de détracteurs aussi à Mercier, là? Ou est-ce que vous êtes tous d'accord pour que ce mode qui est plus lent, finalement, c'est une ancienne idée qu'on remettrait à jour pour ajouter finalement un mode de transport?
Dans Mercier-Est, le collectif en environnement Mercier-Est n'est pas contre le tramway. Là. Nous, on est pro-tramway.
Oui, c'est ça. C'est
mais
ça
on demande qu'il soit étudié au même titre que d'autres...
Mode de transport.
Dans la multiplateforme. C'est-à-dire qu'avec les trains de banlieue, parce que là, on parle juste de Montréal, si on regarde la région, il faut améliorer l'offre de trains de banlieue en conjonction avec une offre. Mais des tramways, il y a eu des modélisations qui ont été faites de façon indépendante par le Gram puis imagine la Chinesse, qui arrive à des conclusions que dans l'Est, entre autres sur Sherbrooke, Pointe-aux-Trembles, puis même vers Repentigny, il y a moyen d'aller fort rapidement parce que les intersections sont très séparées et si on crée des corridors dédiés, le tramway pourrait rouler très vite. Avantageux par rapport à l'auto et même avec le nombre de stations, les déplacements des citoyens, il y aurait gain de temps par rapport au REM projeté. Le REM permettait entre les stations de sauver 2 minutes, mais si pour se rendre au REM, ça prend 15 minutes de plus, en moyenne, 90% des gens, d'après les calculs qui ont été faits par M. Jean-François Lefebvre, il arrivait à 90% des gens ont avantage à prendre le tramway dans leur déplacement.
Oui.
X, Y, Z, la RTM va... Nous, ce qu'on demande, c'est que la RTM refasse ce genre de calcul-là avec différents scénarios. Lui, il a pris un scénario, mais que la RTM étudie une série de corridors près les uns des autres et sa grille super complexe pour mieux saisir les besoins des citoyens. Le problème, c'est que le gouvernement a limité la marge de travail de la RTM concernant le REM. Là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit d'étudier une multitude de d'aspects. Leur mandat en termes de relations avec les citoyens et même au niveau du développement futur, il y a plein... Le mandat était limité. Maintenant, peut-être que ça rouvre, mais on est content de voir qu'il semble avoir une ouverture.
Oui, moi aussi, j'ai une demande. Moi, j'ai pris la navette fluviale jusqu'à Pointe-aux-Trembles, puis j'ai été enchantée. Ça a été super rapide parce que j'habite Saint-Michel, puis généralement, c'est très, très long pour se rendre à Pointe-aux-Trembles. Est-ce qu'on pourrait envisager aussi ouvrir plus largement à ces navettes-là qui pourraient être ouvertes avec les changements climatiques jusqu'au mois de décembre, là, est-ce que vous pourriez rentrer dans votre grille, justement, ce genre de choses-là?
Donc, votre question, c'est est-ce qu'on pourrait prolonger le service des navettes
fluviales?
C'est très difficile à cause qu'on a un hiver qui est très froid puis on a un fleuve qui gèle. Donc, c'est des choses qu'on a regardées, mais Il y a des contraintes climatiques là, qui font en sorte qu'on ne peut pas prolonger le service. Ça serait bien, d'autant plus que les dernières données démontrent que le service a gagné en popularité en 2023 par rapport à 2022, mais c'est en termes d'achalandage. Mm-hmm. Donc, c'est un service qui fonctionne bien, qui marche, puis on espère qu'il va être pérennisé à un certain point. Ça reste encore un projet pilote.
Je voudrais qu'on parle du vélo pour terminer. Mm-hmm. Je sais que certains d'entre vous sont venus en vélo. Donc, le rêve, c'est le réseau de 200 kilomètres à peu près là, qui nous est promis jusqu'en 2027. Le vélo gagne en popularité énormément sur l'île de Montréal. C'est sûr que c'est plus sur l'île que pour les longs déplacements. Est-ce que ça, c'est une bonne opportunité pour lâcher la voiture? Vous en pensez quoi, monsieur professeur Wedgwood? Du vélo?
Oui, avec le vélo. Oui, c'est
plus,
une chose.
Plus actif aussi.
Oui, c'est plus actif. Il y a plus d'avantages encore avec une perspective plus large pour la société. C'est aussi... Montréal, c'est comme un leader, si on veut dire, en Amérique du Nord, dans cette perspective. Et on voit que quand on crée les systèmes qui sont assez... un niveau de danger assez bas, que une partie de la population, comme les femmes, les petits-enfants et les personnes plus âgées, commencent et utilisent le vélo. Parce qu'avant, c'était trop dangereux. Et
parce qu'on n'avait pas des pistes cyclables aménagées.
Oui, pistes cyclables, oui, exact. Mm. Donc, c'est une façon de changer nos routes pour que c'est plus, dans un sens, démocratique, que tout le monde peut utiliser les routes pour se déplacer aux endroits où ils veulent aller.
Donc, et c'est aussi, au point de vue financier, une bonne idée de favoriser aussi les gens qui ont peut-être un peu moins les moyens. Ça commence à coûter cher de se déplacer en ville avec les transports en commun. Et puis ça peut décourager les gens qui voudraient lâcher la voiture.
Ça coûte cher d'utiliser la voiture aussi.
Oui, ça, je sais.
Donc ça, il ne faut pas l'oublier.
Entendu. Ben, je vous remercie beaucoup. C'était le temps qu'on avait aujourd'hui. Donc, vous venez de l'entendre, on était en compagnie de François Toméo, directeur de modélisation, organisation et développement des réseaux, donc à l'ARTM. On était en compagnie de Daniel Chartier, vice-président du collectif en environnement Mercier-Est. On va mettre les informations sur la page. Et de Owen Waygood, qui est professeur titulaire de transport à Polytechnique Montréal. Merci à tous les trois d'être venus avec moi en studio. Merci.
Merci. Merci.
Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche cette semaine, tout comme à la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Vous pouvez réécouter de nouveau l'émission et la partager à partir de la page de l'émission, par exemple, sur le site de l'agence Science Presse. Passez tous une très belle semaine. Portez-vous bien.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de...